même dans le four, là. À l'époque de Salomon, il existait un magnifique temple rempli de la gloire de Dieu. Donc, présence, puissance, caractère de Dieu, à l'époque du roi Salomon. Malheureusement, parce que les Israélites n'avaient pas tenu compte que Dieu était présent au milieu d'eux, Dieu va les punir et ils seront amenés en captivité pendant un certain nombre d'années. Il y a eu plusieurs captivités, vous lisez ça dans l'Ancien Testament. Et il faut se rappeler que si Dieu châtie son peuple, c'est parce qu'il l'aime et non pas parce qu'il le rejette, puisque par la suite, il va les appeler à participer à son œuvre de reconstruction du temple. Et on va arriver au passage où je veux vous amener, mais simplement une petite introduction ce matin, c'est qu'alors qu'ils sont en captivité dans un autre pays, soit la Babylone, soit la Syrie, Dieu va faire naître dans l'esprit de Cyrus, empereur de Perse, l'idée de publier dans tout son empire un décret qui va permettre au peuple de Dieu de retourner à Jérusalem pour reconstruire son temple, où Dieu voulait encore manifester sa présence. Et ça, on voit ça dans Esdras, et Esdras, c'est juste avant Néhémie, et on voit que Dieu va mettre à cœur, Néhémie, quand il apprend par son frère que tout est rasé à Jérusalem, son cœur saigne, et là, il crie au Seigneur, « Seigneur, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, Seigneur, il y a des belles maisons ici, et finalement, ton temple, c'est des ruines, Seigneur, personne ne se préoccupe de ce qui se passe là-bas. Seigneur, que tu puisses vraiment me donner les paroles pour toucher l'empereur afin qu'il puisse me permettre d'aller à Jérusalem et de reconstruire la muraille de Jérusalem. » Et ce qui arrive, c'est que dans leur tentative pour reconstruire le temple, eh bien, les Israélites vont rencontrer une vive opposition semblable à celle que nous rencontrons une fois que nous avons décidé de consacrer nos vies au Seigneur. Ce que j'aimerais simplement mettre en parallèle ce matin, c'est l'aspect spirituel et l'aspect visible des choses. L'aspect spirituel, on ne voit pas toujours, mais l'aspect, ça rentre dans l'invisible, mais l'aspect aussi visible. Et ici, j'aimerais que vous preniez compte tout au long du message, c'est que le temple aussi, ça sous-entend vous. Vous, en tant qu'individu, puisque Jésus dit que vous êtes dorénavant le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, nous dit la parole, il habite dans le cœur de chaque croyant né de nouveau. Il y a fait sa demeure. Et comme dans le temple de Salomon, dans l'Ancien Testament, Dieu veut manifester sa puissance, sa présence, son caractère dans le cœur de ceux, qui habitent. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et Dieu fait sa demeure en vous, comme il était présent dans le temple de Jérusalem. Et ce que Dieu veut faire à travers chaque croyant, c'est de manifester la même gloire qu'il manifestait dans l'Ancien Testament. Vous êtes en même à ça ce matin? C'est pas facile, ça. Et pour y arriver, Dieu va utiliser tous les moyens possibles pour manifester son caractère dans le cœur de chaque chrétien. Ça commence d'abord par la sainteté. Il n'y a rien qui peut se produire s'il y a des ruines dans votre cœur. Il n'y a rien qui peut permettre à Dieu de manifester de sa puissance et sa présence s'il y a encore des choses du passé que vous traînez dans votre cœur. Parce que Dieu veut non pas. Parce que lorsque Dieu réussit à gagner votre cœur à vivre dans la sainteté, frères et sœurs, les paroles qui sont dans ma vont se réaliser dans vos vies. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Et à partir du moment où la sainteté habite le cœur du chrétien, le Seigneur n'a plus besoin de nos stratégies, n'a plus besoin de nos méthodes pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Il veut simplement nous utiliser pour être témoin de sa gloire, pour voir sa puissance, sa présence se manifester au milieu de son peuple. Qu'est-ce qui est arrivé ici face à ce que vous n'irez ni à la maison? Face à cette opposition, les Israélites vont se décourager, ce qui va les amener à se replier sur eux-mêmes, à s'appuyer sur leur propre intelligence, et éventuellement à oublier que Dieu était avec eux, et que dans sa grâce, Dieu voulait les utiliser pour construire le temple. Et frères et sœurs, c'est la même chose. On vient au Seigneur, on est aînés au Seigneur. Écoutez, on rentre dans un autre monde. Écoutez, l'Esprit dit à notre esprit que, écoute, ce que tu as toujours cherché dans ta vie, je viens de te le donner, quoi. Tu as quitté les ténèbres, tu pensais d'être dans la lumière, mais écoute, tu es éclairé à la chandelle maintenant, écoute, je vais t'éclairer comme jamais personne ne t'a éclairé. Non seulement je vais t'éclairer, mais tu vas briller. Tu vas briller au milieu des ténèbres. Et là, on rentre dans un autre monde. Et là, on commence à témoigner à nos frères, à nos soeurs, à nos parents. Et là, on commence à rencontrer de positions. Qui a déjà rencontré de positions? Ah, il y a plus de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe? Qui a déjà rencontré de positions? Ah! Oui, on rencontre de positions. C'est vrai qu'on rencontre de positions. Et on est humain comme les Israélites à l'époque de Néhémie, d'Ezra. On a peur. On se décourage parce que les gens nous rejettent, parce qu'on veut leur partager le trésor. Les gens en ont la Syrie, du pardon de leur péché, de la vie éternelle, et tous les trésors dans le royaume de Dieu. Les gens dans notre monde, ils marchent par la vue. Ce qu'ils veulent, c'est les billets. Ce qu'ils veulent, c'est changer leurs bagues, leurs bijoux, pour avoir de l'argent, parce que l'or est très élevé à ce moment-là. C'est à ces choses-là que les gens s'attachent. Et l'Israélite ici, écoutez, le diable sait comment utiliser des moyens pour décourager les membres du peuple de Dieu. Et il le fait dans l'Ancien Testament. Néhémie, heureusement qu'il avait ses yeux fixés sur Dieu du début jusqu'à la fin, parce qu'il avait tout abandonné. Il n'y avait rien qui l'encourageait. Et quand vous lisez le livre de Néhémie, c'est un reste parmi le peuple. Un reste parmi le peuple qui le suivait pour construire la terre. Et frères et sœurs, il ne faut pas regarder vos yeux dans l'Église. Il faut garder vos yeux sur Jésus-Christ, parce que c'est toujours un reste dans l'Église qui marche pour que Dieu puisse faire en sorte d'habiter pleinement et de manifester sa puissance et sa présence dans le cœur de ses enfants. Un reste. Il y en a combien qui sont rentrés dans la terre promise parmi tous ceux qui ont vu les miracles que Dieu a accomplis en Égypte? Deux. Deux sur les millions de personnes qui ont quitté l'Égypte. Deux qui sont rentrés dans la terre promise. Hey, ça fait un méchant reste, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui sont forts en arithmétique cette semaine, aujourd'hui. J'ai calculé le pourcentage de deux. On calcule à peu près 6 millions pour des femmes et des enfants qui ont quitté l'Égypte. Calculez deux. Deux qui sont ceux qui ont réussi à rentrer dans la terre promise. Tous les autres, ils savaient. Mais ils ne savaient pas. Ils ne croyaient pas. Ils connaissaient les Écritures. Mais ils ne croyaient pas. Vous savez, on peut connaître les Écritures par cœur. Mais si on n'y croit pas, la conséquence, c'est qu'on ne fait pas embrasser. La conséquence, c'est qu'on ne fait pas confiance à Dieu. La conséquence, c'est qu'on n'est pas certain que ça marche dans nos vies. Ah, ça marchait dans l'Ancien Testament. Ça marchait à l'époque de Jésus. Ça marchait à l'époque des apôtres et de quelques perdus. Après que les apôtres soient morts jusqu'à aujourd'hui, de quelques perdus, de quelques éliminés, de quelques personnes qui n'avaient pas de discernement, qui faisaient confiance à Dieu. Et aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Professeur, est-ce que le diable a réussi à vous impressionner au point de vous paralyser et de vous empêcher d'être tendre, ce tendre que Dieu veut que vous soyez aujourd'hui dans cette génération? Est-ce que le diable vous a paralysé au point de vous embarquer dans toutes sortes d'activités au point où Dieu n'est jamais le premier, ne peut jamais le premier? Lorsque vous et moi nous perdons de vue que rien ne peut résister, nous s'opposer à ce que Dieu a décidé, nous finissons par oublier pourquoi il a envoyé Jésus-Christ et qu'il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Vous savez, à côtoyer les différentes églises, j'entends des choses et je pense qu'on devrait définir ce que c'est l'Église aujourd'hui pour le milieu évangélique. L'Église, ce n'est pas un endroit où on doit se sentir bien. Il y a des clubs sociaux pour ça. Il y a des clubs privés pour ça. Et ils se débrouillent beaucoup mieux que l'Église peut se débrouiller pour faire en sorte que les gens se sentent bien. L'Église, elle représente le royaume de Dieu sur la terre. Je le répète, Dieu, à travers les frères et sœurs en Jésus-Christ, joue sa réputation à travers eux. Et on aura des comptes à rendre par rapport à ce qu'on aura fait de la réputation de Dieu, que Dieu a placé en notre monde. Nous sommes ses ambassadeurs. Il dit, à cause de Paul Macoré. Dieu a décidé d'envoyer les anges qui étaient restés fidèles dans le ciel pour rendre témoignage de l'Évangile. Il a décidé d'utiliser les hommes et les femmes, faits et rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et il dit, c'est à travers vous, à travers votre témoignage, que je joue ma réputation. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est d'entendre des enfants chrétiens qui disent, moi, je ne convertirai pas, parce que mes parents n'ont jamais fait un témoignage de Jésus-Christ. Frères et sœurs, même auprès de vos enfants, vous montrez si vous jouez une religion ou si vous avez vraiment une relation avec le Seigneur Jésus. On peut se faire passer, on peut se dire n'importe quoi sur aujourd'hui. et nos enfants, qui nous connaissent encore mieux qu'on peut les connaître. Ils savent quand on est sincère et quand on joue aux hypocrites. Ils savent quand le Seigneur a fait la première place dans nos vies et quand il occupe la deuxième place. Et des fois, on se demande pourquoi nos enfants hésitent, pourquoi nos enfants ne veulent pas prendre une décision pour le Seigneur. Et là, on crie, c'est le monde est puissant. Est-ce que vos enfants, est-ce que mes enfants ont vu la puissance de Dieu? La puissance de Dieu se manifester dans ma vie, dans votre vie. Frères et sœurs, c'est ce que nous vivons ici. Il n'est pas plus fort que ce qui se passe dans le monde. Comment pouvons-nous penser que nos enfants reviendront à Jésus-Christ? C'est facile de dire à mon fils, écoute, tu es rendu à 20 ans, le petit Intel, écoute, il s'est fait baptiser à 18 ans, il est encore de 2 ans, je vais te faire baptiser, moi aussi, qu'est-ce que les gens de l'Église vont penser? Est-ce qu'on dit que c'est le choix de l'enfer, cet enfant-là, parce qu'il va obéir aux parents, à cause de l'orgueil des parents? Sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu. On ne sera pas baptisé parce que nos parents nous le demandent. On ne sera pas baptisé parce que les membres de l'Église, pour savoir ce que les membres de l'Église ont pensé de nous. On sera baptisé parce qu'on a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. L'Église, elle est là pas pour que les gens se sentent bien, c'est seulement pour que les gens se sentent mal et qu'ils reçoivent en Jésus-Christ le bien que Dieu leur réserve depuis toute l'éternité. Et l'Église n'est pas là pour faire du bien aux gens. La preuve, ceux qui viennent à l'Église et qui se sentent bien quand ils quittent, très rarement ils vont accepter le Seigneur. Très rarement. Très rarement ils vont accepter le Seigneur, ces gens-là. S'ils entendent un message qui est différent, s'ils entendent qu'ils sont perdus pour l'éternité parce que ce sont des pécheurs, et que s'ils meurent sans Christ avant de mourir, ils sont perdus pour l'éternité, condamnés. Et que Dieu les aime, et que Dieu ne veut pas qu'ils soient condamnés, et que Dieu ne veut pas qu'ils soient perdus pour l'éternité en enfer. Quelqu'un me disait justement, j'ai rencontré Marcel Perron et le groupe des Québécois cette semaine. Il me disait, Jean, nos églises se libéralisent, on n'entend plus parler du mot enfer. Mes frères et sœurs, comme Jésus-Christ, qui est celui qui en a le plus parlé dans la parole de Dieu, l'Église doit prendre la relève et en parler aussi aux gens, donc, que l'enfer, ça existe, que l'enfer n'est pas sur la terre. Et Jésus nous aime, hein? C'est parce qu'il nous aime, il ne veut pas raconter de mensonges, il nous a dit la vérité. Et nous, si on aime les gens, on ne leur racontera pas de bobards, on va leur dire la vérité aussi. L'enfer, ça existe. Et Dieu fait tout pour éviter l'enfer aux gens. Jésus décrit l'enfer d'une manière épouvantable. Et si on n'est pas touché par ça, on a un problème dans nos vies, frères et sœurs. Jésus dit, c'est un lieu où la souffrance va être éternelle. La chair vous rappelle qu'il va y avoir un jugement d'avenir. Hein? Le jugement des justes et la résurrection des justes et des injustes. Et que ceux qui sont morts sans Christ vont être jugés, condamnés, c'est grave, quoi. Et le jugement, il est clair. C'est l'enfer pour l'éternité, quoi. Jésus dit, c'est un lieu où il y a du feu, c'est un lieu où les gens vont souffrir. Ils vont reprendre leur corps, ils vont souffrir pour l'éternité. Il va y avoir des grincements dedans. Les gens vont regretter pour toute l'éternité d'avoir rejeté l'offre de salut que Dieu leur a présenté en Jésus-Christ. Mais on n'est pas là pour juste parler de l'enfer, c'est vrai. Mais c'est une réalité, frère et sœur. On est là pour dire que Dieu les aime et que Dieu veut épargner aux gens l'enfer. Que ce que Dieu veut leur offrir en Jésus-Christ, c'est la sienne, c'est le paradis. Mais c'est aussi la paix de l'âme. C'est aussi la joie de savoir qu'après la mort, c'est pas la fin, mais de vivre une nouvelle vie. On parle de ça. Frère et sœur, on a une vision de la Bible. On fait les gens pour que les gens s'en viennent, on est complètement à côté de la plaque. On est ici pour dire aux gens qu'il y a deux royaumes, les ténèbres et la lumière. Il y a deux espérances. Une qui est décevante, celle du monde. Et une qui est éternelle, qui est vivante et éternelle, celle de Dieu. Et les gens font leur choix. On n'est pas là pour tordre les bras aux gens. On n'est pas là pour les manipuler pour qu'ils prennent une décision. On est là pour leur parler du message, leur dire clairement à quoi consiste le message. Et quand ils ont pris une décision, comment on fait pour savoir que quelqu'un est nouveau dans la pratique? Ils vont le montrer dans la pratique, c'est l'obéissance. Jésus, l'auteur d'un salut éternel, pour tous ceux qui lui obéissent. Et ça, ça. Agé, je vais trouver, chercher un livre que vous devez lire régulièrement. Agé, chapitre 2. Agé. Il est facile à trouver, celui-là. Agé, chapitre 2. Là, on commence le message. Une fois l'introduction, on va essayer de lancer un petit bout. Pendant que vous cherchez Agé, Et juste après Jonas, je vais vous rappeler qu'on a commencé à mettre l'étude biblique des proverbes sur Internet dans le site de l'Église. Alors, vous pouvez aller consulter le site. Et pour ceux qui n'ont pas encore participé à l'étude biblique, vous pouvez venir à tous les mercredis, parce que tous les mercredis, c'est différent. Donc, ce que vous avez perdu avant, c'est pas perdu. C'est toujours différent. On ouvre beaucoup de parenthèses, donc si vous venez à l'église pour voir ce qu'il y a sur Internet, si vous venez à l'étude pour voir ce qu'il y a sur Internet, vous manquez de trois quarts parce qu'on parle de tellement de choses. On essaie de répondre aux questions des gens, que les gens nous posent. Et c'est comme ça qu'on grandit. Chapitre 2, les versets 1 à 3. La deuxième année du règne de Darius, le 21e jour du 7e mois, le Seigneur ordonna de nouveau au prophète Agée de transmettre des messages. Il lui ordonna de parler ainsi au gouverneur de Juda, au grand prêtre. Hein, je laisse faire les noms. Hein, au grand prêtre et à tous ceux qui étaient revenus d'exil. Y a-t-il encore parmi vous quelqu'un qui se rappelle combien le temple était splendide autrefois? Or, que constatez-vous maintenant? Ne voyez-vous pas que sa splendeur a été réduite à néant? Frères et sœurs, je ne sais pas quel genre de vie vous vivez. Rappelez-vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Rappelez-vous qu'au tout début de votre vie chrétienne, Dieu manifestait sa joie dans votre cœur, dans votre famille. La question que je vous pose ce matin, c'est la même question que Agé pose à son époque. Que constatez-vous maintenant dans vos vies aujourd'hui, par rapport à ce temple que vous êtes? Que constatez-vous? Est-ce que Néhémie dit, ne voyez-vous pas que la splendeur, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui vous éclairait, qui se manifestait dans vos vies, est-ce que cette gloire a été réduite à néant? C'est la question qu'il pose ici. Hein? Ne voyez-vous pas que sa splendeur a été réduite à néant? Est-ce que la gloire de Dieu brille, agit, se manifeste puissamment dans vos vies, parce que vous marchez selon sa parole? Ou si cette gloire qui doit habiter dans votre temple, dans votre cœur ce matin, a été réduite à néant parce que vous vivez dans le compagnie. C'est ce qu'Agé est en train de dire ici. Hein? Et le Seigneur va donner la mission au prophète Agé pour qu'il interpelle le peuple à participer activement à l'œuvre de Dieu. Et avec le recul, nous savons ici qu'il était question de reconstruire le temple dans lequel Jésus lui-même marcherait un jour. La gloire de cette dernière maison, quoiqu'elle serait différente de la première, gloire serait supérieure à celle de l'époque de Salomon. Ainsi donc, tout comme Dieu manifesta sa gloire lorsque Jésus visita le temple qui avait été reconstruit, et lors de la Pentecôte, Dieu veut manifester dans son temple une gloire encore plus grande dans ces temps que nous vivons. Et ce temple, frères et sœurs, c'est vous et moi. Frères et sœurs, les gens rentraient dans le temple. Une fumée qui montait. Et les gens qui sentaient la présence de Dieu. Au milieu du jeu, Dieu chassait les vivants dans leur temple. Et ça qui me jetait un verset en quoi. Faire la maison du Seigneur et connaître. Faire la maison du Seigneur que c'est une maison de prière, une maison de commerce. Et Dieu chassait les vivants. Frère et sœur, quand les gens nous rencontrent, sans qu'on ouvre la bouche, parce que les gens sentent cette maison. Je vais vous dire que le premier chrétien que j'ai rencontré, il n'a jamais parlé de manger. Ce qui dégageait. C'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Il n'y avait pas besoin de faire les deux prêcher que Jésus m'aimait. Il n'y a pas besoin de dire que Jésus était mort pour lui. Je le sentais. Et moi et ma femme, sans qu'il me parle de l'évangile, on a quitté cette maison, on se disait ce qu'on a toujours cherché, ce couple-là, long. Et ça, quand les gens rentraient dans un temple païen et rentraient dans le temple de Jérusalem, quelle différence! Dans le temple païen, c'est des dieux morts, des statues, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas entendre, ils ne pouvaient pas parler. Mais lorsqu'ils mettaient les pieds dans le temple de Jérusalem, frères et sœurs, et que le peuple marchait dans la vérité, Dieu manifestait sa puissance et sa présence. Frères et sœurs, est-ce que c'est ce que les gens voient à travers nous aujourd'hui? J'espère que vous avez une conviction dans votre cœur ce matin. Qu'en 2012, c'est ce que Dieu veut manifester dans votre vie et dans votre cœur auprès des gens. En 2012, c'est ce que Dieu veut pour vous. Vous dites Amen.
Amen.
Frères et sœurs, Dieu a fait tous les efforts qu'il y a de lui. Il vous reste maintenant à participer. parce que Dieu vous a donné toutes les armes, tous les moyens pour y arriver. Et là, il s'agit de savoir où porter vos yeux. Et ici, Agé va nous dire, on continue. Frères et sœurs, nous avons tous un point faible dans nos vies, tout comme c'était le cas pour ceux qui vivaient à l'époque du prophète Agé. Ce point faible, c'est cette difficulté à croire au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux naturels, ce qui a pour conséquence d'ouvrir la porte au découragement dans nos vies. Comment pouvons-nous aller au-devant de cette vision limitée que nos pauvres yeux nous montrent? Est-ce que c'est en étudiant davantage la Bible? Est-ce que c'est en venant plus souvent à l'église? Par exemple, on a tendance à penser que si nous lisons un peu plus, si nous étudions un peu plus, si nous prions un peu plus, et si nous faisons un peu plus, nous deviendrons de puissants ambassadeurs du royaume de Dieu pour réaliser seulement, plus tard, que tout ce que nous avons fait, eh bien, c'est d'étudier un peu plus, c'est de lire un peu plus, c'est de prier un peu plus, c'est d'en avoir fait un peu plus, et ça ne va rien changer dans la vie. Toutes ces choses sont bonnes en soi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça, quoi. Mais elles n'amèneront pas nécessairement Dieu à manifester pleinement sa puissance dans nos vies. Dieu seul peut nous amener à voir au-delà de cette vision limitée que nous percevons avec nos yeux naturels, et il s'agit de savoir comment il s'y prend. Tournez avec moi dans Jean chapitre 11. Oh, on va peut-être arrêter avec ça ce matin. Il reste encore beaucoup de matière, mais je vais tirer sur Internet. Vous pouvez regarder dans la deuxième partie la semaine prochaine. Là, je suis rendu au tiers du message. Ouais. Et si vous n'avez pas de bain dans le four, ben, j'ai quand même le dîner, hein, le repas qui s'en vient. Chapitre 11. Et c'est quoi chapitre 11? Ah, ben, c'est Lazare. Hein? Chapitre 11, Jean raconte l'histoire de trois personnes qui avaient une relation intime avec Jésus. Marie, Marc et Lazare. Et on sait d'après les textes bibliques que Jésus les fréquentait fréquemment, qu'il s'asseyait à leur table et qu'il partageait des choses merveilleuses avec eux. Quel privilège incroyable pour les membres de cette famille. Marthe le servait, Marie l'adorait, et Lazare l'aimait, il savait que Jésus l'aimait. Imaginez pouvoir être enseigné par Jésus lui-même dans leur propre maison. Ils ne pouvaient pas demander mieux, n'est-ce pas? Et je suis certain qu'elle se réjouissait lorsque Jésus les visitait, tout comme vous et moi, nous nous réjouissons ce matin d'être venus dans la maison de Dieu pour l'adorer, le servir et entendre sa parole. Malgré le fait qu'ils bénéficiaient de sa présence dans leur maison, Jésus savait qu'il y avait encore une carence. Quelque chose dans leur cœur, dans le cœur de ses trois amis, qui les empêchait à pouvoir glorifier Dieu comme ils le devaient. Et que va donc faire Jésus ici? Va-t-il les gronder? Va-t-il demander à Marie de demeurer plus longtemps à ses pieds? Va-t-il demander et va-t-il demander à Marie de servir un peu plus et demander à Lazare de l'aimer un peu plus? Non, pas du tout. Vous rappelez-vous ce qu'il va faire? Il va laisser la maladie et la mort entrer dans leur maison. Spécial, hein? Nous constatons que Dieu va appliquer ce même principe à l'époque d'Agé, c'est-à-dire une image de ce que le Seigneur doit faire afin que son peuple puisse vraiment le glorifier. Vous avez espéré de gros... Ah, mais là, gardez un doigt dans Jean 11 et allez dans Agé, j'espère que vous avez gardé un doigt dans Agé. Agé chapitre 1, rapidement. Verset 9. Vous avez espéré de grosses récoltes, et voyez le peu que vous avez obtenu. Ce que vous avez ramené chez vous, je l'ai dispersé de mon souffle. Pourquoi cela, je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers? Eh bien, il donne réponse pourquoi il a fait ça. Vous avez travaillé comme des fous, et vous avez récolté peu. Vous avez pensé que vous avez beaucoup d'argent dans votre compte de banque, et regardez, il y a eu des circonstances qui sont survenues. Et finalement, votre compte de banque n'est pas plus élevé qu'il était avant de commencer la vie. Qu'est-ce qu'il dit ici? Parce que mon temps m'est en ruine, alors que chacun de vous s'occupe activement de sa maison. Vous avez espéré accumuler beaucoup, et voyez le peu que vous avez obtenu. Vous faites faites partie de ma famille, vous faites partie de mon royaume, vous faites partie de mon peuple. Et vous vous préoccupez de votre bien-être matériel, de votre bien-être physique, alors que mon temple est en rien. C'est ce que c'est un temps indice. En fait, vous vous préoccupez beaucoup plus de ce qui se passe dans votre vie que ce que je fais moi dans votre vie. Et à ce moment-là, vous travaillez en vain. Et non seulement vous travaillez en vain, mais vous allez peiner de peine et misère parce que vous ne récolterez rien. Pensez pendant un instant jusqu'à quel point ce que nous venons de lire ressemble à ce à quoi nos églises aspirent aujourd'hui et à toutes les stratégies qu'elles mettent en place pour amener les gens à la maison de Dieu. Ils sont venus, mais ils ne sont pas restés. Le Seigneur dit, vous les avez amenés dans votre église, mais je les ai chassés parce qu'ils n'étaient pas vraiment convertis à cause de vos méthodes. Par conséquent, Agée chapitre 1, verset 10, voilà pourquoi aucune pluie n'est tombée et rien n'a pu pousser. Voilà pourquoi ce que vous avez semé, parce que ça ne vient pas de ma parole, mais ça vient de vos méthodes, voilà pourquoi ce que vous avez semé, il n'y a rien qui en est sorti, parce que ça ne venait pas de moi, ça venait de vous, de vos efforts, de vos stratégies, de vos méthodes, dit le Seigneur. Qu'est-ce que ça amène, ça? Le découragement. On travaille tellement fort, puis les gens disent au Seigneur, tellement fort, qu'on ne voit pas de fruits, on ne récolte rien. Le Seigneur dit, je ne vous demande pas de travailler fort, je vous demande de vous consacrer davantage à moi. Je ne vous demande pas de travailler fort, laissez-moi travailler. Vous allez vous épuiser, vous allez faire un burn-out, laissez-moi travailler. Ce que je vous demande, les sacrifices, l'obéissance. À partir du moment où vous allez obéir, sans qu'on connaisse ma parole, vous allez semer une graine, vous allez produire 100. Ce que vous allez semer, ça va produire 100 fois. Agée chapitre 1, verset 11, première partie du verset 11. À cause de ce manque de foi, j'ai provoqué la sécheresse dans le pays. Une sécheresse spirituelle qui ne donne rien. Nous parlons de moissons, mais nous récoltons très peu maintenant, surtout à l'intérieur des frontières de la Belgique. Comment alors Dieu réagit-il face à cela? Agée chapitre 1, verset 11. Alors j'ai provoqué la sécheresse dans le pays, sur les collines, dans les champs de blé, les vignes, les plantations d'oliviers, les autres cultures. Les hommes et les bêtes qui ont souffert, tout votre travail a été compromis. Voilà ce que Dieu a fait. Il provoque une famine, une crise financière et une augmentation du chômage. En d'autres mots, il enlève tout ce qui nous apporte une fausse sécurité, et sinon, et ça, non pas dans un geste de colère, mais dans un geste d'amour pour ceux qui font partie de son peuple. Pour ceux qui font partie de son peuple. Il provoque des choses. Et c'est la même chose, c'est pour ça que j'ai pris Jean chapitre 11, c'est exactement la même chose qu'il va faire avec Marthe, Marie et Lazare. Il va permettre que la maladie et la mort rentrent dans leur maison afin de leur montrer leur impuissance. Frères et sœurs, aujourd'hui, les gens sont malades. La science est tellement avancée qu'elle les soulage à peu près de tout. La science, quelqu'un qui meurt, et puis au bout de quelques minutes, elle peut réussir à le ramener, il y a quand même un délai. Mais là, on ne joue pas, là. 4 jours, il est mort. 4 jours. Marie, est-ce que tu penses que moi, je suis assez puissant pour le ramener de la mort à la vie, lui? Et Jésus, c'est pour ça que Jésus va prendre son temps quand Lazare est malade. Ce qu'il voulait, c'était pas de ramener quelqu'un en santé, c'était de ramener un mort à la vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les amener à vivre une situation où ils seront impuissants à gérer, afin de leur montrer jusqu'à quel point ils étaient encore incrédules, qu'ils manquaient de foi, et qu'ils apprennent à lui faire confiance. Puis encore une fois, il va venir vers eux pour manifester sa gloire. Et frères et sœurs, aujourd'hui, on se trouve dans la même situation que Marthe, Marie et Lazare. C'est-à-dire que nous sommes placés dans une situation où si nous comptons sur nos propres forces, nous ne verrons pas Dieu manifester sa gloire au milieu de son peuple. Lorsque Jésus s'est rendu au sépulcre, où Lazare était mort depuis 4 jours, Marthe va lui citer des passages des Écritures. Mais elle ne croyait pas vraiment dans ce qu'elle disait, parce que ces passages n'avaient jamais pris racine dans son cœur. Maintenant, sur quoi je me base? J'espère que je vais trouver le passage. Dans verset 24. Moi, ça doit faire à peu près minimum 100 fois que je lis Jean chapitre 11. C'est en fait vraiment un message que ça me saute aux yeux. Verset 23, Jésus lui dit, ton père ressuscitera. Verset 24, il ne dit pas je crois, je sais. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, pas maintenant. Il ressuscitera à la fin. Oh non, le Seigneur, à la fin. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et il a regardé le verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Frère et soeur, le fait qu'elle savait, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle croyait. De la même manière que vous et moi, nous savons ce qui est écrit dans les Écritures. Cependant, il arrive un moment où nous devons simplement croire ce qu'elles disent. Elles connaissaient les Écritures. Mais est-ce qu'elles croyaient vraiment tout ce qu'elles connaissaient? Je sais qui écrit. Alors Marie, si tu le sais, et si tu y crois, tu vas ma gloire se manifester au milieu de toi. Frère et soeur, vous savez ce que Dieu peut faire? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez dans ce que vous savez des Écritures? Est-ce que vous croyez dans ce que vous savez à propos de Jésus? Si vous y croyez, frère et soeur, cela devrait vous pousser à l'action. Les gens n'agissent pas par incrédulité. Ils savent, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Si j'ai l'assurance que Dieu accomplit toutes les promesses qu'il a écrites dans sa parole, si j'ai l'assurance que peu importe ce que je fais, qui conforme à sa volonté, Dieu me protège, Dieu est avec moi. Ce que je sais, si j'y crois, cela va me pousser à agir. Si je ne fais que le savoir, par exemple, j'ai trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas agir parce que je ne suis pas convaincu dans mon cœur que Dieu, que je vais bénéficier de la protection de Dieu, de la présence de Dieu. Marie, au verset 24, elle savait, elle connaissait, oui, Seigneur, je connais tout ça, oui, oui. Mais là, tu parles de la résurrection de son frère, oui, oui, je connais les Écritures, Seigneur. À la fin des temps, il va y avoir un jugement dernier, la résurrection des justes et des injustes. Oui, Seigneur. Et là, il lui parle. Il dit, hey, c'est la résurrection et la vie. C'est le point à moi du bras, même s'il meurt. Crois-tu cela? Seigneur, je crois. Et là, il va lui montrer ce qu'il dit. Ce qu'il m'entend, c'est la vérité. Et Marie, je vais fonctionner en fonction de ta foi aussi. Regardez le miracle que je vais accomplir. Je vais accomplir devant tes yeux. Frère et soeur, Dieu va accomplir les miracles dans vos vies en fonction de ce que vous croyez. Et pas en fonction de ce que vous savez, en fonction de ce que vous croyez. Que Dieu le Père aujourd'hui. Je vais terminer avec ça. Parce que le temps part. Frère et soeur, le Seigneur a pris la cité pour les femmes. Les pharisiens connaissaient la parole de Dieu par cœur. Ils n'ont jamais laissé leur foi au Dieu vivant. Ils ont passé leur foi à leur culture. Il y a les 600 préceptes qu'ils ont accrochés à la Bible. Ils n'ont jamais cru. C'est pour ceux qui m'ont crucifié. Ils ont montré la règle du bien qu'ils ont crucifié Jésus comme maintenant. Ça peut répondre à la volonté de Dieu. Par exemple, si vous fonctionnez en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, en fonction de ce que vous savez de la parole, vous pouvez réaliser de la vérité et de découragement. Si vous fonctionnez non seulement en fonction de ce que vous savez, en fonction de ce que vous croyez, Dieu va accomplir le miracle dans votre vie en 2020. Si vous fonctionnez uniquement en fonction de ce que vous savez dans la parole, ça vous enlève votre vie dans le péché. Si vous ne croyez pas vraiment que Dieu va vous tenir, si vous ne croyez pas vraiment qu'il y a des conséquences de péché, et si non seulement vous savez, mais vous y croyez, vous savez que Dieu tourne par ici, vous êtes vraiment mis de vous, Dieu va vous ramasser. Pas pour vous demander, mais pour vous ramener dans le prochain, pour que vous puissiez réintégrer les rangs du royaume, et que vous puissiez briller pour vous. Allez, personne. Question que je vous pose ce matin. Est-ce que vous savez l'univers où vous voulez simplement savoir ce que si vous connaissez la parole de Dieu? Ou si vous croyez. Vous croyez que Dieu a conduit des miracles dans l'Ancien Testament. Et quand vous êtes capable aujourd'hui, et qu'il a accompli par le Jésus, par les apôtres, pour vous raconter ces miracles à travers vous aujourd'hui. Jésus a dit celui qui croit en moi fera de plus grandes choses que moi. Il n'a pas dit celui qui sait qui je suis fera de plus grandes choses que moi. Celui qui croit en moi fera de plus grandes choses que moi. Alors, vous n'allongerez peut-être pas des bras, vous ne rentrez peut-être pas la douce aveugle, vous ne permettrez peut-être pas diminuer de parler. Je vous dis ce que vous allez faire. Vous allez amener les gens passer de la ténèbre à la lumière, de la lumière à passer par une nouvelle naissance. Ça, c'est un miracle que seul Dieu peut faire. Et si Dieu lui donne ce privilège-là, vous n'allez pas. Et Dieu ne va pas beaucoup plus que ce que Jésus a. Et c'est cette parole nouvelle qui s'accomplit. Vous allez encore faire de plus grandes choses que moi. Il y a des gens qui disent, il y en a combien qui l'ont soutenu Jésus quand il était condamné, quand il était accusé. On n'a pas entendu, oh Seigneur, mon sauveur, non, c'était crucifié, crucifié, crucifié. Et la nouvelle naissance, elle reconnaît que c'est un innocent qui est mort pour les pécheurs. Isaïe chapitre 55, verset 3, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix avec Dieu, la paix de Dieu. Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne, et c'est cette paix qui vient du ciel. C'est cette paix que les gens recherchent tellement dans le monde. On essaie d'avoir la paix avec nos femmes, d'avoir la paix avec nos maris, d'avoir la paix avec les gens qui nous entourent. Si on n'a pas la paix de Dieu, si on n'a pas d'avoir fait la paix de Dieu, il est impossible de vivre en paix les uns avec les autres. Il est impossible. Les gens ont de la difficulté à s'endurer, quoi. Alors ajoutez-en une couche pour essayer d'endurer les autres. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres partout, hein. Mais lui a mis fin à la guerre qui se passe dans notre cœur. Ce combat, ce conflit qui se passe dans le cœur, il dit, je vous donne ma paix. Et Jésus dit, écoutez, le jugement que tu n'es prêt pour les péchés que tu as commis, il l'a pris, lui. Et en retour, il donne sa paix. Cette même paix avec laquelle nous allons passer l'éternité dans le royaume de Dieu. Il nous la donne maintenant. Pas quand on va mourir pour rentrer au ciel, maintenant. Maintenant, vous savez pourquoi on ne l'a pas pleinement, que ça ne dégage pas pleinement, que ça ne manifeste pas pleinement? Parce qu'on sait, mais on n'y croit pas. Moi, ça me paraît quand j'ai des chrétiens. Je termine avec ça. Donc, j'aime pas, ça me dit que c'est la bonne. Ça me paraît quand j'ai des chrétiens qui disent que moi, je suis sauvé. Maintenant, je m'assois sur ma chaise. J'attends que le Seigneur Jésus vienne. Puis là, je bénéficie de sa paix, puis de sa joie, puis du bonheur qui est écrit dans la parole. Mon œil, tu te trompes. C'est maintenant qu'il te le donne. Ce qui va changer pour l'éternité, c'est juste un miracle. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de pollution. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de décomposer parce que tu es dans le paradis. Mais la paix, la joie, c'est maintenant qu'il te la donne. Il y a des chrétiens qui attendent après ça. Ils ont hâte que le Seigneur aille les chercher pour bénéficier de cette paix, cette joie. C'est maintenant. C'est maintenant parce que vous êtes en train de vous leurrer. Et pourquoi on n'a pas sur cette joie et cette paix? Parce qu'on sait, moi, ils ne croient pas. Hey, si on y croyait, là, il y a 100 personnes, on partirait dehors à chaque semaine. Je vous dis pas qu'on va voler du temps, patron, sur notre travail pour évangéliser, ça, faut pas faire ça, quoi. Ça ne demande pas de voler du temps. Mais quand il y a des occasions qui se présentent, en dehors du travail, des gens qu'on rencontre, on essaie de créer des opportunités pour leur parler de cette paix et de cette joie que le monde crie, que le monde souffre, que le monde aspire, que le monde cherche à avoir. Et qu'on peut avoir uniquement en Jésus. Souvent, le pardon de ses péchés, ça bouleverse, ça change une vie. Parce que tu sais que peu importe si tu meurs, si Dieu arrête ton cœur maintenant, tu n'es pas condamné. Le Seigneur va dire, viens, viens, entre dans ma présence. Pas en fonction de ce que tu savais, mais en fonction de ce que tu as cru. Tu as cru au Fils de Dieu, de confesser son nom, entre dans la présence de Dieu. Par exemple, j'ai commencé à avoir cette conviction en 2012. On continuera la semaine prochaine. Alors, en 2012, que le Seigneur est avec vous, du début jusqu'à la fin de l'année, et qu'il tend vos oreilles à vos prières. Réunion de prière ce soir, que vous puissiez venir pour vraiment célébrer, pour montrer que non seulement vous savez que la prière est importante, mais parce que vous y croyez. Et le peuple de Dieu dit... Amen.